En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Alors, Jean-Christophe Couvenès avait hier parlé en faisant la différence entre le hoplite et le soldat de la phalange macédonienne de la longueur de la Sarisse. Et on voit bien que donc la question de la distanciation entre les combattants est une question qui est très ancienne et qu'on peut faire remonter jusqu'à l'Antiquité, et voire surtout à l'invention des arcs et des flèches qui constituent une véritable rupture dans cette mise de distance entre les combattants. Et on dirait même que cette distanciation auquel l'armée aérienne va apporter, dans laquelle l'armée aérienne va jouer une étape capitale, elle est presque caractéristique de l'art occidental de la guerre. On peut citer en particulier une citation du colonel Ardan Dupic, qui sont dans ses études sur le combat, qui ont été publiées en 1880. Lui, le pauvre, il est mort en 1870 à la tête de son régiment, qui dit « L'homme s'ingénie à pouvoir tuer sans courir le danger de l'être », qui montre bien, avant l'invention de l'aviation, que une des caractéristiques de cet art occidental de la guerre, c'est de mettre de la distance entre les combattants. Mais il est vrai qu'avec l'apparition de l'avion sur le champ de bataille, il y a un tournant capital qui est pris, et qui est pris donc lors de la Première Guerre mondiale. Et ce tournant, c'est une des choses, une des caractéristiques principales que retiennent ceux qui ont combattu pendant la guerre de 14, et en particulier, on peut citer ce discours de Paul Valéry en 1931, cette phrase de Paul Valéry en 1931, lorsqu'il reçoit le maréchal Pétain à l'Académie française, dans lequel il dit « L'engagement à grande distance, comme l'action à toute distance, sera peut-être le trait essentiel des guerres de l'avenir ». Voilà ce que retiennent la génération qui a vécu la Première Guerre mondiale, de l'apparition de l'avion sur le champ de bataille. Et aujourd'hui, cette distanciation entre les combattants a franchi une étape ultime avec l'apparition du drone armé. Aujourd'hui, un pilote qui est derrière un écran quelque part dans le Nevada est capable de piloter et de tirer un missile quelque part au-dessus du Pakistan, du Yémen ou de la Libye. Et donc c'est l'étape ultime de cette distanciation qui est un processus qui est ancien. Schématiquement, pour revenir sur la bataille aérienne, on pourrait décrire l'évolution de la bataille aérienne entre une première étape, qui est une étape héroïque, on va dire, c'est celle des As, en 1914, où il y a un combat à la loyale, quoi qu'il y a. Il y a quand même beaucoup de ruses qui est employée, qui est celle de Guynemer. Et puis une étape où s'organise le combat aérien, qui devient un combat collectif, c'est l'apparition des escadrilles de chasse, et on prend souvent l'exemple de la création de ces grandes unités de chasse avec, en février 1916, lorsque le maréchal Pétain demande au commandant de Rose de reprendre la supériorité aérienne dans le ciel de Verdun. Et puis la troisième étape dans cette évolution de la bataille aérienne, c'est la bataille d'Angleterre. C'est les Anglais qui, avec l'invention du radar et puis surtout l'insertion de ces radars dans un réseau de commandement maillé qui leur permet d'avoir une vision tactique de champ de bataille aérien grâce à des hommes qui ont eu beaucoup de flair et de talent comme l'air marshal Dodding, qui ont inventé la guerre aérienne moderne. Et depuis, je dirais, cette étape de 1940, on est dans cette étape, dans cette période de la guerre aérienne moderne. La deuxième caractéristique de la bataille aérienne, mais je vais revenir sur le terme, c'est la distance. Philippe Contamine disait hier, le champ de bataille d'Azincourt, c'est quelques dizaines d'hectares. Olivier Chaline disait, Leipzig, c'est un carré environ de 15 km sur 15 km. les fronts de la Première Guerre mondiale, c'est quelques centaines de kilomètres, de la Première à la Deuxième Guerre mondiale, quelques centaines de kilomètres. Avec la vitesse du vecteur aérien, avec la continuité du vecteur aérien, on est sur des échelles qui sont complètement différentes et qui sont des échelles de centaines de milliers de kilomètres carrés. Et le général Charest a bien monté ce raid, donc qui part de Saint-Dizier en Libye, c'est 2000, avec une élongation de plus de 2000 kilomètres. Donc on est pratiquement à l'échelle d'un continent. La troisième caractéristique, elle est constituée par le cadre temporel. Il est beaucoup plus difficile à définir que pour la bataille terrestre. Certes, on parle de la bataille d'Angleterre, on peut même la dater août 1940. Et encore, ces limites chronologiques, elles sont controversées. On y inclut parfois, et on y inclut maintenant, la bataille de France. Parce que si les chars allemands, les panzers allemands ont été arrêtés par ce gigantesque fossé anti-char que constitue la Manche, il n'y a pas de véritable discontinuité dans la guerre aérienne entre la bataille de France et la bataille d'Angleterre. Et donc, c'est très difficile de séquencer une bataille aérienne. Andrew Knapp a parlé de l'opération Argument en février 1944, qui est le moment, une opération essentielle, il l'a bien dit, le moment où les Alliés acquièrent la supériorité aérienne sur le continent européen. La supériorité navale, ils l'ont acquise dans l'océan Atlantique, bien plus tôt, un an plus tôt, en avril 1943. Mais ils n'obtiennent la supériorité aérienne, c'est-à-dire une des conditions essentielles pour débarquer sur le continent européen, que lors de cette opération de bombardement de Berlin en février 1944, l'opération Argument. Mais c'est difficile de séparer cette opération Argument de toutes les opérations de bombardement qui ont eu lieu avant, de tout cet effort allemand qui a été fait pour concentrer la chasse pour défendre le ciel de l'Allemagne. Donc c'est très difficile de séquencer l'action aérienne en moments distincts. Ce sont également des opérations qui ont une très grande extension géographique. Et donc, il est difficile de définir réellement ce qu'est la bataille aérienne. Et d'ailleurs, la notion est tardive. Elle date, elle a été introduite dans la doctrine française en février, dans une instruction en février 1937. Et lorsqu'elle est introduite en février 37, elle est très contestée, y compris par des aviateurs, par le général Vuillemin en particulier, qui écrit au ministre à la suite de cette publication, de cette instruction en mars 1937. Et donc, il écrit « L'ensemble des faits de guerre aériens ne constitue pas une suite de batailles offensives ou défensives, séparées par des temps d'arrêt ou d'attente. Il présente bien plutôt les caractères d'une lutte se prolongeant pendant toute la durée de la guerre et s'apparentant à la lutte d'usure avec ses alternatives de succès et d'insuccès. Dans cette lutte, les opérations offensives et les opérations défensives se trouvent parfois constamment juxtaposées, parfois même combinées. » On voit bien, c'est difficile. La bataille aérienne, elle n'a pas de sens. Elle a un sens terrestre, elle a un sens naval. On peut distinguer, on peut la séquencer, on ne peut pas la séquencer. C'est très difficile de la séquencer pour les questions aériennes. Et deuxième citation, Vuillemin a ensuite été donc le chef d'état-major de l'armée de l'air en 1940. On peut prendre un exemple britannique avec Lord Tedder, le marshal de la Royal Air Force Tedder, dont Andrew Knapp a déjà parlé, qui était adjoint d'Eisenhower, qui sera ensuite chef d'état-major de la Royal Air Force, qui écrit en 1947 « La bataille pour la supériorité aérienne n'a pas de résultat aussi net qu'une bataille navale terrestre. Ce n'est même pas une série de combats entre chasseurs. Elle est souvent une opération extrêmement complexe qui peut mettre en jeu quelques-uns ou tous les types d'avions. C'est plus une campagne qu'une bataille. Elle n'a de fin que lorsqu'il n'y a plus aucun avion ennemi en mesure d'opérer. Elle peut être locale et temporaire, c'est-à-dire qu'elle peut couvrir une opération déterminée, ou elle peut être largement étendue et soutenue, ainsi qu'elle l'a été pendant la phase finale de la guerre en Europe. » Bon, c'est une citation un peu longue, je suis désolé, mais on voit bien la difficulté à la fois de définir ce que c'est qu'une bataille aérienne, aussi bien géographique que pour le temps. Et la bataille aérienne, en fait, elle ressemble beaucoup à la bataille médiévale qui a été décrite par Philippe Contamine hier, où on a des petits groupes qui agissent d'une manière plus ou moins coordonnée, quelque part sur un théâtre d'opération. Et il y a une autre caractéristique, lorsque Philippe Contamine parlait hier, qui m'est apparue, c'est que cette bataille aérienne, c'est une bataille aérienne qui est acceptée. comme pour les temps médiévaux. C'est-à-dire que la bataille de Baugé, dont Philippe Contamine a parlé, c'est une bataille où chaque parti accepte de combattre et on choisit le lieu. Et même s'il y a eu un petit décalage pour le temps de la rencontre, on accepte le combat. Et bien pour la bataille aérienne, c'est la même chose. Il faut accepter le combat. Sinon, bien souvent, et très souvent, comme pour la bataille médiévale, le chasseur, lorsqu'il est le pilote de chasse, lorsqu'il est en position de supériorité, lorsqu'il se trouve face à un ennemi qui a un matériel qui est plus puissant que lui, eh ben, il s'enfuit. Sauf quand il a une mission, bien sûr, particulière à faire. Et on a tous en tête des missions de sacrifice qui ont été accomplies par des équipages sur les ponts de la Meuse, etc. Mais dans une situation de combat aérien, c'est-à-dire de bataille pour la supériorité aérienne, c'est la bataille aérienne, c'est-à-dire la rencontre de deux avions à un coin précis du ciel, c'est quelque chose qu'il faut accepter, qui n'est pas... Et s'il n'y a pas la recherche de la bataille aérienne, elle ne se produit pas. Donc il serait trop long de décrire toute l'évolution de sa bataille aérienne ou la guerre aérienne depuis 14, et comme ce qu'Olivier Chaline m'a demandé ainsi que Jean Béchler, je vais plutôt me concentrer sur la bataille aérienne ou les opérations aériennes ou la campagne aérienne aujourd'hui à partir de cette évolution majeure qu'a constitué la guerre du Vietnam. Et donc je vais voir dans un premier temps la mutation fondatrice de la puissance aérienne au cours de la guerre de Vietnam, puis l'apparition du concept de guerre à distance et son intégration dans la transformation, qu'on appelait autrefois la révolution dans les affaires militaires, et puis enfin la guerre aérienne et les drones aujourd'hui, parce que ces drones ne sont qu'un des instruments terminaux, si je puis dire, de la guerre aérienne telle qu'elle a commencé à apparaître au Vietnam. Alors, tout d'abord, le Vietnam. Le Vietnam, lors de la guerre du Vietnam, à partir du milieu des années 1960, les Américains se heurtent à un système de défense aérienne intégré, extrêmement efficace, en particulier avec des missiles SA-2, dont le général Chaix a déjà parlé, et donc plus de 200 sites de SA-2, plus de 7500 sites de défense aérienne, tout ça soutenu et armé par les Soviétiques. Et c'est le réseau de défense aérienne le plus dense qui avait jamais été créé. Et ce réseau de défense aérienne, plus les MiG-21 qui sont chargés de l'interception, crée des difficultés à l'US Air Force qui cherche à acquérir la supériorité aérienne pour mener ses opérations dans le Nord-Vietnam, en particulier ses opérations de bombardement, de coercition. Et donc l'US Air Force met au point, à partir de 1965, des techniques qui lui permettent d'opérer à travers ce réseau de défense aérienne. Et c'est du fait de cette confrontation avec ce réseau de défense aérienne que les premières armes guidées apparaissent. Et la première arme guidée qui apparaît, c'est le missile Shrike, l'AGM-45, qui est un missile qui se guide sur les émissions du radar d'acquisition des batteries de missiles solaires. Et donc, en 1965, la première arme guidée, si on fait apparaît, si on fait abstraction des bombes planantes allemandes de la Deuxième Guerre mondiale et des missiles V1, V2. La deuxième arme guidée qui apparaît, c'est l'AGM-62 qui apparaît deux années après, en 1967, et cette fois qui est une arme qui a été développée par l'US Navy, et qui est une arme qui est guidée par télévision et utilisée pour la première fois par l'aéronaval pour détruire le jour de l'anniversaire d'Ho Chi Minh la centrale électrique de Hanoï. Comme quoi les aviateurs américains ont dû. Il y a toujours cet aspect psychologique dans la guerre aérienne. Et puis enfin, les bombes guidées laser, qui sont aujourd'hui d'un emploi courant, apparaissent en 1968. Elles sont développées par l'US Air Force et c'est la GBU-10. Et un exemple, et c'est elles qui seront ensuite les armes guidées avec précision qui sont le plus utilisées. Et on voit ici un fantôme qui est l'avion mythique, si je puis dire, américain de la guerre du Vietnam, qui est armé d'une GBU-10 guidée laser. Et un des plus bels exemples qu'on peut montrer pour illustrer cette efficacité de la GBU-10, c'est la destruction du pont d'Oumer à Hanoï en 1972, qui est le pont qui relie Hanoï à la baie au port d'Haïphong, où arrivent tous les approvisionnements soviétiques. Ce pont a fait l'objet de 9 missions aériennes en 1967, qui avaient toutes échoué à le détruire, et il est finalement détruit en 1972 à la suite d'un raid de deux formations de 16 F-4 armées de GBU-10, et il est mis hors de service jusqu'à la fin de la guerre. La seconde mutation de la puissance aérienne lors de la guerre du Vietnam, elle est moins connue, elle est moins spectaculaire. C'est tout ce qui tourne autour du commandement et du contrôle. On a vu, il y a ce premier balbutiement lors de la bataille d'Angleterre, où les Anglais, grâce à leur radar, grâce à leur réseau, grâce à l'intuition de Dodding et de quelques groupes capitaines, en particulier le groupe capitaine Hart, qui a conçu toute cette architecture du Fighter Command, ont commencé à, au-dessus de leur côte et de leur territoire, enfin un petit peu au-delà de leur côte et au-dessus de leur territoire, à avoir, grâce à une salle enterrée dans le PC du Fighter Command, une image pratiquement en temps réel, 10 minutes près, 10-15 minutes près, de la situation aérienne, c'est-à-dire avec une image des raids qui arrivaient sur les côtes britanniques, et puis des unités du Fighter Command qui pouvaient diriger en fonction de la taille, de la direction du raid, etc. Et donc la bataille aérienne ne devient pas une rencontre fortuite dans un coin du ciel, elle devient une bataille qui est organisée et qui est commandée à distance. Et les Américains, et donc pour ça, cette bataille soit organisée et commandée à distance, il faut avoir une vision de la situation tactique du champ de bataille aérien. Et les Américains commencent à développer, à partir des années 67-68, des moyens techniques qui leur permettent d'avoir une vision du champ de bataille aérien au-dessus du Nord-Vietnam. On voit sur la carte de gauche la couverture radar qui est mise en place par les Américains pour avoir une vision de cette situation tactique aérienne. On voit que cette couverture radar, elle n'est pas tout à fait complète, et en particulier lui échappent toutes ces régions du Nord-Vietnam à proximité de la frontière chinoise. Donc ils vont prendre d'autres moyens. On voit peut-être pas très bien sur la carte de droite, mais il y a un bateau qui est le Piraz, nom de code Krone, qui est un peu au sud du golfe du Tonkin, et qui a également des moyens radar et qui permet de compléter cette situation aérienne. Et un petit peu au-dessus du Krone, on voit un petit avion qui est un ABCC, c'est-à-dire un des premiers ABCC, c'est-à-dire un avion comme les AWACS aujourd'hui, qui porte des radars et donc qui permet de compléter cette couverture radar. Et donc, grâce à ces moyens techniques, les Américains, l'US Air Force, est capable d'établir une situation aérienne au-dessus du Nord-Vietnam et donc de voir lorsque la chasse vietnamienne décolle, pour intercepter les raids américains qui peuvent emprunter deux routes, on voit, soit une route pour atteindre le Nord-Vietnam directement par la Thaïlande, soit en partant de la région de Da Nang, et puis en bombardant et en passant par le golfe du Tonkin. Et ces renseignements sur la situation aérienne sont centralisés à deux postes de commandement, un en Thaïlande, à la frontière entre la Thaïlande et le Laos, et un à côté de Da Nang, à côté du 17e parallèle. Et donc on a, c'est vraiment la naissance du commandement et du contrôle moderne des opérations, et ça apparaît lors de la guerre du Vietnam. Le troisième élément qui apparaît, alors qui est pas tout à fait, qui est contemporain de la guerre du Vietnam, mais qui n'est pas tout à fait lié à la guerre du Vietnam, c'est le GPS. Le GPS, le général Charek s'en a parlé, c'est un élément essentiel, le GPS, parce que pour connaître la situation aérienne, il faut connaître les coordonnées en latitude, en longitude, en altitude. Il faut même que les montres, si je puis dire, ou les horloges des différents systèmes soient synchronisées, et donc que tout le monde ait le même temps, et ça, c'est fourni par le GPS. Et le GPS, donc, qui est cette constellation de satellites Navtar, il y en a 24 qui tournent en permanence, enfin plus de 24, mais 24 en opérationnel qui tournent, et puis d'autres qui sont en réserve et qui peuvent être activés en fonction des besoins. Et donc, elle permet à n'importe quel mobile sur la Terre, puisque les signaux sont publics, de pouvoir obtenir ces coordonnées en latitude, en longitude et en altitude, et plus de se synchroniser le temps. Ce système GPS a été décrit comme la glu qui relie les différentes composantes de la transformation, c'est-à-dire de la révolution dans les affaires militaires. Et ce système-là, il commence à être conçu, développé à partir de 1973. Il y a 4 satellites qui sont opérationnels en 1978. Il y a une première capacité opérationnelle qui apparaît en 1985. Et puis, c'est Ronald Reagan qui décide. Donc, c'est un système qui est purement militaire. C'est un programme qui est conduit par l'US Air Force. Et c'est Ronald Reagan qui décide, à la suite de la destruction de Boeing de la Korean Airlines en 1983 par un Sukhoi 15 soviétique, parce qu'il s'était aventuré au-dessus dans l'espace aérien soviétique, de rendre ce signal GPS public, une partie du signal GPS public. Et donc, ce signal GPS, il est essentiel pour la transformation de la guerre aérienne, pour pouvoir se situer, pour pouvoir donner ses coordonnées dans le champ de bataille, mais aussi pour pouvoir guider des armements. On a vu que les armements guidés laser, guidés par télévision, guidés sur des ondes électromagnétiques apparaissent pendant la guerre du Vietnam, mais l'armement guidé par GPS, lui, est beaucoup plus tardif. Il commence à être développé dans les années 1980. Et en 1991, après la guerre du Golfe, les Américains qui ont été gênés pour larguer leurs bombes laser du fait des conditions météorologiques, du fait de la fumée qui était dégagée par les puits de pétrole en feu, décident de développer une arme qui puisse s'affranchir de ces conditions météorologiques. Et donc, ça sera l'arme, la JDAM, qui est une arme guidée laser, qui sera opérationnelle en 1998 et qui sera utilisée pour la première fois lors de la campagne du Kosovo en 1999. Il y a une véritable donc mutation de cette guerre aérienne qui est contemporaine du Vietnam. Et on peut citer Ludwak, par exemple, qui est très connu pour ses travaux sur la fin de l'Empire romain, connu également, on en parlait hier avec le professeur Chenet sur l'Empire byzantin. Mais il a travaillé aussi sur la puissance aérienne. Et pour lui, il y a une véritable transformation de la puissance aérienne grâce à l'apparition de ces armes guidées avec précision. Il écrit, c'est la généralisation des armes guidées par armes avec précision à l'impact de l'ordre du mètre, comparé aux 10 mètres précédemment acquis, aux 150 mètres de la guerre du Vietnam, aux 1000 mètres de la plupart des bombardements de la Seconde Guerre mondiale, qui a conduit à la transformation de la puissance aérienne dont les possibilités se sont si nettement manifestées durant la guerre du Golfe en 1991. Je voudrais passer maintenant à la deuxième partie de mon exposé, qui est voir comment toutes ces briques techniques qui sont apparues au cours des années 1970 et 1980 ont été intégrées dans ce qu'on a appelé la révolution des affaires militaires et la transformation dans une nouvelle manière de faire la guerre. Et là, joue le rôle d'un homme exceptionnel qui est Andrew Marshall. Andrew Marshall, c'était le chef de l'Office of Net Assessment du Pentagone, qui avait été nommé à ce poste par Schlesinger, qui était secrétaire à la défense de Nixon, et qui restera à ce poste, qui quittera ce poste en janvier 2015. Donc il va tenir ce poste-là pendant pratiquement 40 ans. Et cet Office of Net Assessment est chargé d'évaluer la politique américaine. Donc il a accès à toutes les données les plus confidentielles. Il a eu accès à toutes les données les plus confidentielles américaines. Et donc c'est lui qui a été le père du concept de transformation et de révolution des affaires militaires. Et pour être, et Andrew Marshall le dit lui-même, c'est pas lui qui a identifié en premier cette transformation et cette révolution dans les affaires militaires, ce sont les soviétiques. Et donc Marshall, quand il voit apparaître dans la littérature soviétique, dans les années 1970, l'idée que ces nouveaux armements guidés avec précision, c'est le GPS, vont révolutionner la manière de faire la guerre, s'intéressent aux questions. Et la première chose que fait Marshall, c'est qu'il fait appel aux historiens. Et il lance une très grosse étude dans les années 1980 qu'il confie à Williamson Murray. Et il y aura trois bouquins qui seront édités par Williamson Murray dans les années 1988 sur l'efficacité militaire. Qu'est-ce que c'est que l'efficacité militaire pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et dans l'entre-deux-guerres? Et il sera... Et donc ce sont des travaux encore qui sont très utilisés. Et il confiera également un autre travail à un autre historien qui est Barry Posen sur les conditions de l'innovation militaire. Qu'est-ce que l'innovation militaire? Quelles sont les conditions pour que l'innovation militaire fonctionne? Et Andrew Marshall donc, est alimenté par toutes ces études à la fin des années 1980. Et puis il y a la guerre du Golfe en 1991. Et les soviétiques... identifie dans la guerre du Golfe, justement en disant ça y est, les Américains ont fait leur transformation, l'art de la guerre est transformé. Il y a une voit dans la guerre du Golfe la preuve de cette révolution dans les affaires militaires. Andrew Marshall et puis un homme qui travaille avec lui, qui est Andrew Krepinevich, eux qui ont accès à toutes les informations américaines sur la guerre du Golfe, sont un peu plus sceptiques et ils disent que dans cette première guerre du Golfe, certes, il y avait des éléments comme le GPS, comme les armements guidés, qui ont permis une manière ancienne de faire la guerre de mieux fonctionner, mais qu'il n'y a pas eu une réelle révolution dans les affaires militaires avec cette guerre du Golfe. Et Krepinevich dit, il compare la première guerre du Golfe à l'apparition des premiers chars sur à Cambrai en 1917. Certes, il y a des chars qui ont apparu sur le champ de bataille, mais on n'a pas inventé la blitzkrieg. Et pour Krepinevich, il reste à inventer la doctrine et les modes d'action qui vont permettre à cette nouvelle technologie de donner toute leur signification. Et puis, cette doctrine, je vais passer rapidement, cette doctrine est en fait... Marshall et son équipe de l'Office of Net Assessment perdent un petit peu la main sur cette doctrine. C'est un petit think tank, l'Office of Net Assessment. Le Pentagone, qui est une grosse machine, s'empare de ce concept-là, en particulier William Perry, qui était secrétaire à la Défense. Et en 1994, les Américains décident de transformer leur outil de défense et l'homme qui fera entrer, si je puis dire, ce concept de transformation au Pentagone, c'est l'amiral Owen. Et les Américains vont prendre ce concept qui a été forgé par Marshall et vont lui donner un tour très technologique. En disant, et c'est l'idée de Owen dans le livre qu'il écrira un petit peu plus tard, Lifting the Fog of War, que la technologie permet d'avoir une connaissance complète du champ de bataille, de disperser le brouillard claudicien. Lui, Marshall, restera sur une vision beaucoup moins technologique, beaucoup moins affirmative, en disant qu'il ne faut, faut pas se fier complètement aux promesses de la technologie pour disperser le brouillard de la guerre. Je voudrais pour terminer aborder le sujet des drones. Comment les drones, on a vu comment depuis la guerre du Vietnam, de nouvelles briques étaient apparues et comment ensuite les Américains avaient bâti ce concept de transformation. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est un peu incompréhensible. Sans doute, le but, c'est peut-être pas de comprendre, mais what is DCGS, c'est le Distributed Common Ground System, c'est-à-dire un système de communication qui permet de relier tous les vecteurs sur un champ de bataille et de fusionner toutes les informations qui sont captées par ces vecteurs. Ce système, il a été bâti par l'US Air Force dans les années 1980 parce que l'US Air Force voulait récupérer les informations qui étaient captées capturé par les U-2 lorsqu'ils survolaient l'URSS. Et donc, ils voulaient, avant que le U-2 atterrisse aux États-Unis, ils voulaient récupérer les informations du U-2 pour pouvoir les exploiter plus facilement. Et donc, ils mettent au point un des ancêtres du DCGS, qui sont des camions qui devaient se situer à proximité de l'axe de retour de U-2 pour récupérer toutes les informations qu'avait engrangé le U-2 avant que celui-ci, sur le théâtre européen, avant que celui-ci ne rejoigne les États-Unis. Et puis, ils vont ensuite utiliser, dans les années 1990, les liaisons satellitaires. Il n'y aura plus de camions sur le I-2. Et puis, ils vont étendre ce système à toutes les composantes, à tous les autres avions, à tous les autres vecteurs aériens ou terrestres, pour pouvoir fusionner l'information. Et donc, toute cette information est maintenant... ce système de l'US Air Force est maintenant disponible pour l'ensemble des services du Pentagone. Et c'est la colonne vertébrale de ce qu'on a appelé la guerre en raison. Alors, les drones, là-dedans, les drones, donc ce système devient opérationnel en 1995. C'est à peu près la date à laquelle apparaissent les drones. Ils apparaissent dès le Vietnam. Hein, mais les drones, aujourd'hui, tels qu'on les voit aujourd'hui, ils apparaissent lors des dernières opérations, et en particulier de l'opération... en Bosnie en 1995, dont j'ai momentanément oublié le nom, mais qui permet d'aboutir à la signature des accords de Dayton. Et puis surtout... Pardon ? Non, Hayat Ford, c'est le Kosovo. Alors, chercher le nom de l'opération, mais c'est pas grave. Donc effectivement, il y a des prédateurs en 95, et puis en Bosnie, mais surtout, la guerre des drones, elle commence au Kosovo. Au Kosovo, on a plusieurs dizaines de drones, de types de drones qui sont déployés de 4 pays différents, donc des Américains, avec des drones prédateurs dont vient de parler le colonel. Des drones israéliens, Hunter, Pionier, et puis des drones français aussi, qui pour la plupart sont issus c'était des cibles pour les avions, guidés pour les avions, et puis à qui on a adjoint des moyens de reconnaissance optique, et puis qui sont devenus des drones. Les drones français, le CL-289 en particulier, c'est un drone qui a été conçu pendant la guerre froide pour acquérir les objectifs des frappes nucléaires dans le champ de bataille, et en particulier la frappe du Pluton ou du Hadès. Et donc, il y a un certain nombre de drones qui sont déployés au Kosovo, et c'est la première fois qu'on a autant de drones, avec des pertes, vous voyez, qui sont quand même... une attrition qui est quand même loin d'être négligeable. On perd 3 drones CL-289 sur 6 déployés, 50% d'attrition. C'est énorme, c'est pas propre aux drones français, puisqu'on voit que les Allemands subissent également une attrition comparable. Et donc ces drones qui apparaissent au Kosovo sont essentiellement des drones d'observation. Mais les Américains font là... le constat que, certes, si ces drones repèrent les unités serbes au Kosovo, ils n'ont pas les moyens, le temps d'envoyer un avion de chasse sur place, on n'a pas le temps de... ces chars ou ces pièces d'artillerie ont disparu. Et donc, ils décident d'adjoindre un désignateur laser sur les prédateurs, sur les drones prédateurs, qui sont donc des drones, ce qu'on appelle à moyenne altitude. Et donc, dans les derniers jours de la campagne du Kosovo, le drone Predator désigne des cibles pour les avions de chasse. Et donc, ce qui raccourcit cette boucle qui est essentielle dans la transformation, qui est la boucle entre l'acquisition de la cible et le traitement de la cible. Et puis, tout va s'accélérer. À partir, les Américains décident de mettre des missiles sur les prédateurs pour accélérer encore cette boucle reconnaissance-frappe. Et donc, à partir de 2002, ce sont des prédateurs B qui sont non seulement capables de repérer la cible, non seulement capables de la désigner, mais... enfin, de la traiter et la frapper. Et puis, à partir de 2007, les Américains vont développer un autre drone tiré du Predator, qui est le Reaper, qui cette fois est un drone qui est conçu pour être directement un drone armé. On le voit ici, alors on ne voit pas très bien, il y a 4 missiles et 2 bombes. Et puis, sans être trop long, mais on pourra y revenir, il y a un autre type de drone, qui est un drone, cette fois, qui est un drone uniquement de surveillance, qui est le Global Hawk, qui évolue à des altitudes à plus de entre 40 000 et 60 000 pieds, qui est un drone de reconnaissance, et qui lui n'est pas armé et qui est capable de rester beaucoup plus longtemps sur des zones pendant plusieurs jours, tandis que le Predator ou le Reaper, ce sont des drones qui restent de l'ordre de 24 heures et donc qui apportent une persistance à l'action aérienne qu'elle n'avait pas jusqu'à l'heure. Et donc, ces drones sont reliés à ce système, au DCGS, et donc ils apportent, c'est pas les drones en soi, si je peux dire, n'apportent pas une révolution dans l'art de la guerre, mais les drones, ils apportent une permanence à cette surveillance du champ de bataille, et donc ils complètent une évolution qui a été commencée depuis la guerre du Vietnam, qui permet d'avoir une vision en temps réel, tactique, du champ de bataille. On voit que ce système des CGS est alimenté à la fois par des satellites tout en haut, mais aussi des renseignements qui sont apportés par les forces spéciales, qu'au niveau du théâtre, on retrouve cette fois des drones qui apportent du renseignement ou alors d'autres moyens aériens, et puis qu'au niveau tactique, le renseignement est apporté par des véhicules, des hélicoptères, d'autres types de drones qui sont tactiques, et tous ces renseignements, ils permettent d'avoir une connaissance précise du champ de bataille et de mener ce qu'on appelle une guerre réseau centrée. Et donc le drone là-dedans, et, le drone qui soit armé ou qui soit pas armé, il n'est qu'un élément, si je puis dire, de cette guerre en réseau. En lui-même, il n'a pas de valeur propre. Et quand il est armé, et ben, ce qui est le cas pour les drones américains, pour les drones britanniques, pas pour les drones français, il permet de raccourcir ce cycle de décision. Et donc ce qui compte, comme on le voit bien, c'est ce que disait le général Charek, c'est le système de systèmes. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont autonomes. Le Predator, c'est un système de reconnaissance frappe qui est autonome. Mais ce qui compte, c'est l'intégration de ce système et d'autres systèmes dans un système de systèmes qui, lui, permet de mener la guerre aérienne aujourd'hui. La première guerre vraiment réseau centré, c'est la guerre d'Afghanistan en 2001, la première phase, la phase qui conduit à la chute du régime des talibans, et elle a été décrite donc comme la première guerre vraiment réseau centré. Benjamin Lambette, qui est un chercheur de la Rand Corporation, écrit: ces opérations réseau centré sont maintenant à la pointe d'un changement de paradigme en cours dans le style de combat américain, qui a peut-être plus d'importance que l'introduction du char au début du XXe siècle. Voilà, je ne voudrais pas être trop long. En conclusion, je voudrais juste replacer un petit peu cette évolution un petit peu plus large, si je puis me permettre, à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, on a un processus d'étatisation de la violence qui a été décrit par Max Weber, par exemple, et dans lequel il y a deux phénomènes qui concourent à cette étatisation de la violence. Il y a un facteur social et puis il y a un facteur technique. C'est l'apparition de l'artillerie. Avec l'artillerie, il faut des gens qui soient des professionnels et il faut de l'argent. Et là, on est, si je puis dire, au bout de ce phénomène, de cette évolution, puisque on a des armées qui sont de plus en plus techniques et avec donc besoin de professionnels de plus en plus chers à former, qui demandent du temps et de l'argent, et puis au bout de ce processus de concentration capitalistique, on pourrait dire, et où ces systèmes qui sont extrêmement performants, qui sont connectés, tous ces systèmes coûtent extrêmement cher, et la seule armée qui peut se payer à la fois ses techniciens, ses professionnels très bien formés et qui a suffisamment d'argent pour acquérir ces systèmes de systèmes extrêmement performants sont les États-Unis. Et on a une armée qui, elle, a les moyens, en professionnel, en moyens, pour acquérir. Et pour moi, c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé au XVIe siècle avec ce phénomène d'étatisation de la violence. Voilà.
Merci beaucoup. Bien, vous nous avez élevé jusqu'au niveau des satellites, enfin, qui permet dans le temps de remonter jusqu'au XVIe siècle. Bon, je vous propose de nous arrêter à 5 heures. Je crois que certains d'entre vous doivent partir. Donc ça nous laisse une vingtaine de minutes. Qui voudrait prendre la parole? Monsieur Knapp.
Oui, juste Deux choses. D'une part, une remarque sur le maréchal Tedder et la supériorité aérienne. Je pense que dans ses mémoires, il illustre la supériorité aérienne par une photo qu'il appelle « What air superiority looks like ». Il montre tout simplement une colonne de camions qui roule sur une route dans le désert. D'autre part, mon général, les chiffres pour Dresde, notamment, me semblent à vérifier.
Oui, c'est de l'information que j'ai trouvée sur Internet et tout.
Oui. Dans le...
J'ai trouvé du 60 000, 100 000 et 250 000.
Et si, dans l'ouvrage que j'ai consulté, qui a été sorti pour le 60e anniversaire, donc qui date il y a 10 ans, auquel ont participé des Allemands et des Britanniques, je crois que c'était 25 000.
25 000 ?
Oui. Bon. Et que le bombardement le plus meurtrier, en fait, c'était Hambourg, où quelques 40 000. Donc c'est.
D'accord.
Et Tokyo, j'ai en tête 80 000, ce qui est pas loin de ce que vous avez dit. En tout cas, si on procède à une publication, voilà. Merci.
Oui, il vaut mieux vérifier. Bon, monsieur Donofrio.
Si j'ai bien compris, vous avez parlé de 100 000 aviateurs morts pendant la Deuxième Guerre. Est-ce qu'on peut distinguer entre aviateurs morts lors de combats aériens ou bien à cause de la défense contre-aérienne? Parce que 100 000, c'est impressionnant pour un profane.
La réponse à votre question est non. Je ne pense pas qu'on puisse... on ne peut pas chiffrer ça. On peut le savoir pour des cas individuels, mais... par exemple, si on prend le cas de Guy Gibson, qui était celui, le maître de l'attaque sur les grands barrages allemands, qui a en 43, il a été perdu lors d'une attaque en 44, sans qu'on sache trop comment. Mais je devrais dire aussi que. Sur les 55 000 aviateurs britanniques qui ont trouvé aviateurs bombardiers britanniques qui ont trouvé la mort, il n'y avait que les 40 000 qui sont morts en cours d'opération. Il y avait aussi, mon oncle par exemple est mort dans un accident lors d'une mission d'entraînement. Et si vous imaginez aussi, vous avez évoqué Monsieur Hattendorf, les pilotes de l'aéronaval qui avaient atterrir sur un porte-avions. De même, un avion bombardier qui revient d'une mission extrêmement fatigué, peut-être dans le brouillard, il n'est pas étonnant qu'il y ait eu des accidents qui ont tué, y compris dans les équipages à terre. Donc c'est une non-réponse, mais qui donne quelques éléments de plus.
Parce que cela nous amène peut-être à réfléchir sur le problème de la qualité de la distance sur laquelle M. de l'Espinois a beaucoup insisté. Parce que moi, j'ai trouvé vraiment frappant, mais négativement frappant, cette affirmation de Paul Valéry. Je répète, l'engagement pour lequel le futur de l'avenir de la guerre serait basé sur l'engagement à grande distance comme l'action à toute distance. Voilà, à mon avis, il y a quelque chose d'incohérent là, parce que...
Valéry est en général faussement profond.
Et voilà,
il était merveilleusement intelligent, mais... un grand écrivain, mais quand on y regarde de très près, on a des doutes.
Exactement. Donc je m'arrête là.
Non, parce que ne le répétez pas. C'est voilà.
Frapper à distance, c'est la condition idéale. Mais le problème, c'est que l'ennemi se rapproche.
Oui.
Et soit qui le fait rapprocher.
Oui, justement. Permettez, essayons, parce que nous allons clore enfin ces deux jours, donc nous ne nous battons pas sur les chiffres. Mais j'éprouve un malaise très profond. Moins, pas pour votre exposé, mais pour les deux, non pas qu'ils fussent mauvais. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus d'ennemis en face, puisqu'il y a une telle supériorité, mais s'il n'y a plus d'ennemis en face, il n'y a plus ni bataille, ni campagne, ni guerre. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, la question est comment la guerre, la campagne et la bataille survivent-elles ? Alors, il y a deux réponse possible. L'une est virtuelle encore, c'est de se hisser au niveau de l'équipement, si vous voulez, technique américain, en l'occurrence, enfin, pour l'essentiel. Et les Chinois s'y efforcent et ils y arriveront. Et donc, est-ce que les stratèges commencent à penser à quoi pourrait ressembler, toujours guerre, campagne et bataille, si les deux bénéficient de tout ce qui a été exposé ? Et puis, ça, c'est virtuel. Et il y a actuel, c'est la dissymétrie. Tout cela est complètement hors d'usage, si vous voulez, si vous avez un djihadiste qui se fait sauter, ou bien d'autres qui se cachent, et ainsi de suite, des terroristes. Donc, je crois qu'il y a en grande partie une illusion dans tout ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais tout de même, la guerre consiste, repartant de Clausewitz, même tout y est, consiste à imposer sa volonté à l'ennemi. Les moyens sont efficaces ou ne le sont pas, mais l'objectif est connu. Et regardez en Afghanistan, au Pakistan, etc. Ils n'ont pas déjà réussi à imposer leur volonté. Et donc ça pose un problème qui est à la fois tout simple, si vous voyez, c'est qu'on fait la guerre à deux, est très compliqué. Voilà, enfin, j'ai une question que je voulais poser. Alors peut-être tout de même pour Nap, Monsieur Nap, il y a le défaut de la cuirasse, si je me puis dire, de ces bombardements aériens, parce que finalement la maîtrise du ciel a été acquise, c'est, me semble-t-il, une certaine faiblesse du côté du renseignement. Est-ce qu'il savait avec une précision suffisante quelle est l'usine de roulement à billes qu'il fallait éliminer, etc. J'ai des doutes, enfin, il y avait la résistance, oui. Il y avait ça, mais enfin, bon, oui, ça n'était pas suffisamment précis. Enfin voilà, donc, oui.
Oui, c'est pour la guerre asymétrique, c'est ça. Qui... Parce que le but de la guerre, effectivement, c'est une solution politique pour qu'elle s'arrête. Or, la Libye, on n'a pas la solution politique. Et la victoire a été aussi acquise parce qu'il y avait des milices au sol, des forces spéciales. Il y a quand même eu un appui terrestre. Et avec Daesh, on voit qu'on recommence un peu le même principe. S'il y a des Kurdes au sol, on avance. S'il n'y a personne, apparemment, on n'arrive pas à frapper, alors qu'on arrive, si j'ai bien compris, à un mètre, une cible à un mètre. Un char, c'est gros, ils en ont pris, je ne sais pas combien, à Mossoul, et ils les camouflent bien. Parce que c'est, pour un profane, ça surprend un peu cette impossibilité.
Oui, mon général. Vous aurez la parole, monsieur. Non, mais... Le micro. Ah oui.
Premier commentaire, l'US Air Force annonce aussi, pendant la Seconde Guerre mondiale, 50% des pertes d'équipage non en combat. Entraînement et tout, donc je confirme tout à fait ce que vous disiez. Accident, entraînement, vous vous rappelez les équipages féminins pour transporter les avions sur le théâtre et tout, enfin, il y a eu pas mal de pertes. Le commentaire sur guerre-campagne, les deux, aujourd'hui, faisons très attention de ne pas prendre un retour d'expérience de ce que nous faisons aujourd'hui, qui est une petite image de l'engagement, de la guerre. Ce qui m'a par exemple frappé, c'est que la guerre, le retour d'expérience du Kosovo, c'est on n'a plus besoin de roquettes sur nos avions. Tout s'est fait très haute altitude et tout, et donc on a supprimé les roquettes sur nos Mirage 2000. Aujourd'hui, on a un besoin de roquettes dans le Mali et tout, parce qu'on voit plus les objectifs, on se rapproche plus, il y a moins de dégâts collatéraux. Donc, attention à ces retours d'expérience qu'on peut prendre sans avoir imaginé, en gros, tout l'éventail de la guerre. Le commentaire sur la Libye, et on le lit encore un peu et on le voit aujourd'hui tous les jours, c'est qu'il n'y a eu aucune réflexion politique sur ce qu'on appelle l'état final recherché.
C'est le point essentiel de la guerre.
Mais on est bien d'accord. C'est-à-dire que les militaires aujourd'hui se retournent en disant « Bon, mais après, ok, j'ai battu, mais qu'est-ce qu'on fait après ?» Et il faut voir la situation actuelle. D'accord, on n'a pas du tout identifié quel est le « end state », comme on dit, l'état final recherché. Et encore une fois, l'action militaire n'est que, encore une fois, l'action politique avec une façon de faire la guerre, comme disait évidemment Clausewitz. Donc je voudrais donc surtout faire attention avec cette histoire de Libye, où en fait tout le processus qui a mené à l'action militaire n'était pas présent. Et d'ailleurs, dans la coalition, qui dans la coalition a pris la main pour travailler sur cet état final recherché ? Personne. Personne. On a simplement voulu agir rapidement pour ces pauvres insurgés. Enfin bref, voilà. Donc
Monsieur Knapp, et puis ensuite Monsieur Lespinois.
Oui, juste pour rebondir sur cette question du renseignement et l'usine de roulement à billes, c'est en partie au cœur de la dispute entre Harris et, par exemple, les Américains et d'autres aussi dans le Royal Air Force, parce que Harris qualifiait cette notion de cible panacée, c'est-à-dire que, selon Harris, il est illusoire de chercher la bonne usine qui va faire plier la machine de guerre allemande. Au contraire, il faut bombarder des villes, parce que des villes, ce sont des systèmes économiques interdépendants. Et c'était sa justification théorique du bombardement de zone. Une justification, à mon avis, à moitié justifiée, parce que, quand même, pendant en 44, les Américains, en s'en prenant notamment, non pas à une ou deux cibles, mais au système de cibles de fabrication de pétrole synthétique, et aussi au système de transport allemand sur le territoire du Reich, sont parvenus à des résultats tout à fait appréciables. Mais encore, je n'ai peut-être pas évoqué aussi la très grande résilience des Allemands en dispersant leurs industries, y compris sous terre. C'était quand même très important. C'était des durs à cuire. Merci.
Alors, je voudrais revenir sur l'exposé d'Andrew Knack, qui était superbe. J'avais d'ailleurs lu son bouquin « The Forgotten Blitz » avec Cecilia Bannoli, qui est excellent. Et c'est vrai qu'on a oublié un petit peu ces blitz qui ont fait énormément de victimes. On voit bien quand même, à travers les chiffres qui ont été donnés, et je pense que moi, ça m'avait frappé lorsque j'avais lu le livre, il faut 10 tonnes de bombes pour tuer un Français et une tonne seulement pour un Allemand. Ça veut dire que, quand même, dans ce bombardement de la France, il y a eu un effort des Alliés pour éviter de bombarder les zones civiles. C'est ça que ça veut dire. Hein. Et quand on voit 5 tonnes de bombes pour les Italiens, ça veut dire qu'à un moment, l'Italie est ennemie, puis elle est passée dans le côté avec le maréchal Badoglio, dans le côté allié. Et donc, ça explique, si je peux dire, cette position un petit peu médiane. Et pour l'Allemagne, on n'a pas pris de gants. Hein. Churchill a dit, nous allons transformer l'Allemagne en désert, et il a tenu promesse. Par contre, il y a un petit point sur lequel je vais revenir sur Douai, l'influence de Douai en Europe. Alors, grâce à Jean Béchler, j'avais participé à un précédent colloque sur les penseurs de la guerre, et je pense que les plus douaisiens, c'est pas les Britanniques, parce que Tranchard n'avait pas eu besoin de Douai pour avoir ses idées. C'est pas, même si Mitchell, l'Américain, a rencontré Douai et s'est beaucoup inspiré, il s'est surtout inspiré, je pense, de Tranchard. Sont pas les Français, même si les Français s'en sont servis au point de vue politique pour bâtir l'armée de l'air et pour créer le ministère de l'air, mais ce sont les Allemands. Hitler a lu Douai. Hitler parle de Douai à Milch, il en parle à Göring, il en parle à Galland. Et la seule armée de l'air qui a une force aérienne de bombardement, c'est pas les Britanniques, qui, même au-delà du discours, sont les Allemands. Ils ont 2000 bombardiers moyens, certes, ils n'ont pas de bombardiers lourds. Mais ce qu'on oublie, c'est que d'après les calculs de Robert Noss, qui est le géopolitologue américain, toutes les capitales européennes étaient atteignables grâce à un bombardier moyen, Junker 88 ou Dornier 17. Alors Wever, qui est le premier chef d'état-major de la Luftwaffe, voulait construire un bombardier quadrimoteur, et ensuite qui était baptisé l'Oural d'ailleurs, qui dans les plans était baptisé l'Oural, ce qui voulait bien dire ce que ça voulait dire, mais c'est-à-dire aller au-delà de l'Oural. Pour les capitales européennes, ils n'avaient pas besoin de bombardiers lourds. Il y a quand même Hitler menace les Tchécoslovaques de bombarder Prague lors de la crise de Munich s'il n'obtempère pas. Il y a le bombardement de la petite ville polonaise de Velun en septembre 1939, au tout début, un essai de bombardement de ville pour voir ce que ça donnait, sûrement un essai. Il y a le bombardement de Rotterdam, il y a la menace, il y a le bombardement de Varsovie pour accélérer la capitulation polonaise, il y a la menace de bombardement de Copenhague, et puis il y a le bombardement de Londres. Le bombardement de Londres, c'est typiquement... Il y a Coventry, après. Il y a le bombardement de Londres qui est typiquement, et je l'ai écrit dans un petit livre sur la bataille d'Angleterre, mais c'est une vision française. Le bombardement de Londres, c'est typiquement une opération de coercition. Mais certes, avec, comme vous l'avez dit, 75 000 tonnes de bombes pour la guerre, 500 tonnes de bombes par jour pendant la bataille, le Blitz, c'est pas grand-chose et c'est pas suffisant pour faire plier les Britanniques. Mais Churchill le dit bien. Si les Allemands avaient réussi à larguer autant de bombes que les Alliés en ont largué en 1944-1945 sur l'Allemagne, ils auraient brisé la volonté du peuple britannique de résister. Et puis, je voudrais revenir sur l'histoire, sur ce que dit Jean Béchler, il y a une telle puissance militaire aujourd'hui, puissance militaire américaine, qu'il n'y a plus de possibilité de guerre symétrique. C'est vrai, peut-être les Chinois dans quelques années. Mais, et donc, du coup, il y a un contournement. Il y a une telle puissance militaire qui s'incarne par les Occidentaux grâce à l'aviation que cette guerre symétrique conventionnelle, elle est contournée. Elle est contournée de deux manières, par le haut et par le bas. Par le bas, c'est ce qu'on connaît avec Daesh, le terrorisme, la guérilla en Afghanistan. Et par le haut, on ne le connaît pas encore, mais c'est en marche, c'est la prolifération nucléaire. Et le général Charex pour en parler, mais tout, c'est aujourd'hui, on est quand même à la veille de... Et il faudrait peut-être faire un colloque sur la guerre nucléaire, à la veille d'une prolifération nucléaire où des États sont en train de se doter, et vont se doter d'armes nucléaires, vraisemblablement à moyen terme, sauf si par miracle, on arrive à bloquer le processus.
Dans le dernier numéro, l'avant-dernier numéro de l'Economist, The Economist, le seul, le vrai, il y a quelque chose d'alarmiste sur la guerre nucléaire, qui est beaucoup plus probable qu'à aucune époque, parce que précisément, ceux qui n'ont pas les moyens d'affronter avec des armes classiques ou modernes les États-Unis, en l'occurrence, peuvent recourir à une arme nucléaire. Donc la probabilité augmente. Et c'est exactement la pensée stratégique, s'il y en a une, il doit y en avoir une, russe en ce moment. Avec la modernisation des armes nucléaires, manifestement, ça est dans ce sens-là. On n'a pas les moyens d'atteindre au niveau américain, mais par contre, on a les moyens d'avoir l'armement nucléaire suffisant pour imposer éventuellement notre volonté, ou en tout cas éviter de se la voir imposer par les autres. Je résume, si vous voulez, mais c'est l'impression que cela donne. Il faut s'arrêter, si vous voulez, mais ce programme touche à tout. Des journées nucléaires, non, mais on peut organiser dans le cadre de l'Institut un entretien du matin sur le danger nucléaire. Aujourd'hui, l'Académie, non, c'est une idée enfin, à explorer. Mais ce qui me frappe, c'est ma conviction, mais alors là, depuis toujours, c'est que la guerre est un phénomène humain et social total, comme disait Marcel Mauss, et par conséquent, touche à tout et réciproquement. tout touche à la guerre, enfin à des incidences sur la guerre. Et donc, toutes les tentatives auxquelles peut-être les militaires résistent difficilement, plus exactement les ingénieurs, si vous voulez, c'est l'illusion que l'on peut isoler, si vous voulez, des moyens efficaces, les développer de manière unilatérale, et à la fin, ça va, on va gagner. Ça ne marche jamais. Ça peut marcher une fois, mais sauf si vous tuez tout le monde, ce qui est très difficile de tuer tout le monde, eh bien, il y aura une réaction, si vous voulez. Et ça, autre exemple récent, le général Petraeus qui découvre Garula. Je me suis précipité sur Garula, c'est pas très bon. Petraeus comme Garula ont oublié deux postulats qu'ils devraient introduire dans leur schéma. D'abord, comment persuader une puissance coloniale de se battre pour maintenir dans le contrôle d'une colonie dont elle n'a pas vraiment besoin. Et deuxièmement, pourquoi les colonisés accepteraient de rester dans le giron de la métropole. Il n'y a pas un mot là-dessus sur Garula, dans Garula, ni dans l'argumentaire de Petraeus sur l'Afghanistan. C'est tout de même un peu effrayant. Enfin, on est déjà frappé avec l'apartheid. Je trouve que j'avais eu l'occasion d'aller dans une unité militaire sud-africaine à la frontière de la Namibie. Et alors je devais interroger, qu'est-ce que vous savez sur la structure sociale des Ovimbu, des Herero, tout ça. Les mecs m'ont regardé, ils n'avaient jamais entendu parler de quoi que ce soit. Des gens très, très bien, très compétents militairement, mais qui n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les gens contre qui ils se battaient. Enfin, tout de même un peu... Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans les écoles militaires, non? Excusez-moi, là, enfin, bon, c'est un dada. Enfin, bon.
Si je peux me permettre une réponse, monsieur le professeur, votre assertion, c'est qu'en fait, la différence entre l'époque contemporaine et l'époque des empires coloniaux, c'est l'OTAN. Le lieutenant Massu, sortant de Saint-Cyr, est resté 8 ans dans le Tibesti, il possédait parfaitement tous les dialectes. Il était juge, il épousait une femme sur place, il vivait. Alors que là, en Afghanistan, les gens se succèdent tous les 6 mois, tous les 4 mois, pour les généraux tous les ans. Il n'y a pas de continuité. Effectivement, comme vous le soulignez, on a beau bâtir, les Américains ont fait un programme qui s'appelait Human Terrain System, qui était à base de. Donc il y avait beaucoup d'archéologues, d'ethnographes, de sociologues qui venaient, qui se déplaçaient, qui essayaient de dépeindre la réalité sociologique humaine de l'Afghanistan. Mais évidemment, l'homme de troupe, le soldat, l'officier, n'en était pas nécessairement toujours conscient. Et puis, si je peux me permettre, concernant les Français et Douai, celui qui a traduit Douai dans l'entre-deux-guerres, dès la parution en italien, c'est un général que le lieutenant-colonel Max Cavon a redécouvert, qu'on avait complètement... Le général Vautier, artilleur, polytechnicien. Et alors, malheureusement, lui était plutôt, pour parler un peu comme la Première Guerre mondiale, dans la maison Pétain. Et le maréchal Pétain était assez conscient de cette nécessité d'envisager une défense contre-aérienne. Donc c'était pas l'aspect attaque aérienne qu'il avait retiré de l'étude de Douai. Mais là aussi, effectivement, il ne suffit pas de traduire, de diffuser. Il faut aussi persuader les élites politiques.
Si je peux me permettre, alors Vautier, effectivement, c'est un personnage, c'est l'introducteur, c'est un des douaisiens français très peu connu, et cette biographie de Schiavon est très très belle, a permis de le sortir de l'oubli, quoique il était quand même connu des spécialistes. Mais et c'est l'homme, il y a plusieurs Pétains vis-à-vis de la question de l'armée de l'air. Il y a le Pétain jusqu'en 1930 qui est opposé à la création d'une armée de l'air indépendante, et Vautier, qui était à son état-major, réussit à convaincre Pétain lorsque celui-ci a pratiquement plus aucune influence. Il est chef de la défense anti-aérienne française à partir de 1931. Et donc, à partir de 1931, Pétain défend l'idée d'une armée de l'air indépendante dans un but défensif pour se défendre contre une attaque surprise de l'Allemagne, mais aussi dans le but de créer une force de bombardement. Ça apparaît très nettement dans ce bouquin de Schiavon.
Monsieur Corvisier, oui.
Oui, je me permets de revenir non pas sur des points plus précis, car je n'ai pas qualité pour revenir en histoire contemporaine, mais justement, comme je suis antiquisant, je peux voir un petit peu d'un point de vue de Sirius, ce qui veut dire également du point de vue de quelqu'un qui se pose des questions, parce que finalement, faire la guerre, je vais encore ouvrir des portes déjà ouvertes, mais parfois c'est utile de le faire, c'est faire la guerre contre quelqu'un, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais c'est également faire la guerre pour quelque chose, il y a le problème début de guerre, et c'est faire la guerre contre une autorité politique. Et ce que j'ai beaucoup de mal à percevoir dans les guerres les plus contemporaines, c'est que finalement, nous ne savons pas contre qui nous faisons la guerre, parce qu'il y a un tel cloisonnement que nous ne connaissons pas les vrais chefs, ceux qui tirent les ficelles. Nous connaissons des ficelles sur un théâtre d'opération, sur un autre théâtre d'opération, mais nous ne pouvons pas savoir s'il s'agit de guerres séparées ou s'il s'agit de parties de la même guerre. Et d'autre part, pourquoi faisons-nous la guerre? Est-ce que nous avons des buts de guerre précis face à quelqu'un qui a lui aussi des buts de guerre précis? Et j'ai l'impression que la guerre devient de plus en plus protéiforme, comme c'est une guerre sans but et comme c'est une guerre sans chef, ça risque d'être une guerre sans fin, si je puis dire. La fin de la guerre risque d'être une guerre sans fin. Mais je dis cela, je jette les idées en l'air, je n'ai pas qualité là, ni moyen pour
répondre. Là aussi, nous y avons pensé. Et je crois, quand je l'ai dit hier matin en deux mots, que le phénomène guerre est inscrit dans un espace à trois dimensions politiques, instrumental et opérationnel. Et deux journées antérieures ont été consacrées à la guerre et au droit. Je l'ai monté avec mon confrère et collègue Delvolvé, qui nous a rejoint cet après-midi et qui est juriste et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et un des thèmes abordés a été d'examiner le passage, si vous voulez, de la guerre à l'opération de police. Et ce que nous vivons pour l'essentiel en ce moment, ce sont des opérations de police. Alors ça change, si vous voulez, la finalité de la guerre, le moyen d'eux. Que signifie ce phénomène? Alors pour les uns, c'est l'impérialisme américain. Il doit y avoir un peu de ça. Je crois personnellement que c'est la taupe de l'histoire, c'est l'émergence chaotique et parfois catastrophique d'une gouvernance planétaire qui manifestement est indispensable. Et supposons que le processus soit achevé, que nous soyons tous intégrés à une politique mondiale, il n'y aura effectivement plus de guerre, éventuellement des guerres civiles, mais il y aura des opérations de police. Et donc je crois que nous commençons à entrer dans une phase de transition. Et alors ça change sinon tout, mais beaucoup de choses. Enfin, non ? Le général n'est pas d'accord.
Non, l'opération de police à venir contre l'Ukraine, contre le russe, ça va être peut-être quelque chose. Mais je confirme tout à fait ce que vous disiez. Hein. Aujourd'hui, nous, de notre côté, on a beaucoup de mal à comprendre ce que fait Daesh et quels sont ses objectifs. Qui est Daesh ? Voilà, exactement. Exactement. Ça demande toute une réflexion qu'aujourd'hui...
Je vais aller accorder en lui la parole.
Président, non, parce que je parle d'habitude trop longtemps. Alors, je renonce parce que je vais dépasser les 15 secondes. Oui, monsieur le Président, d'abord, pardon de n'avoir pas pu assister aux précédentes sessions, parce que c'est ce que j'ai entendu cet après-midi tout à fait passionnant, et j'aurais beaucoup appris. Et pardon d'intervenir, non seulement parce que je vais être plus long que les 15 secondes, mais parce que, d'abord, fondamentalement, je suis incompétent. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité que j'interviens devant des gens qui connaissent la guerre et la guerre aérienne. Et alors, c'est les réflexions de cet après-midi qui me conduisent à faire ces observations, non pas tellement sur la bataille aérienne ou sur le combat aérien dont vous avez parlé, mais sur l'arme aérienne, arme récente, parue en 14, bon, je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, et qui me paraît devoir être considérée aujourd'hui comme une arme ayant remplacé une arme ancienne, qui elle-même n'est apparue qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire l'artillerie. La version actuelle, la version moderne, c'est l'artillerie moderne. Qu'il s'agisse de l'artillerie avec des armes dites conventionnelles, enfin conventionnelles le mot, ou de l'arme nucléaire, qui est l'artillerie massive. Alors, deux rôles, et un rôle d'enseignement. Elle est l'arme du renseignement, elle est l'espionnage moderne. Je disais que les satellites, c'était les saucisses de la guerre de 14, ce sont toujours, avec des moyens extrêmement modernisés, mais toujours les mêmes éléments, les mêmes données, les mêmes instruments de la guerre. Alors ça, c'est la première observation. Alors, seconde observation, en liaison d'ailleurs avec ce que vous avez dit, la guerre, c'est toujours une action contre un pouvoir. Mais dans certains cas, et ce que vous avez dit aussi cet après-midi m'a frappé, dans certains cas, c'est une guerre contre un pouvoir en tant que tel, j'allais dire isolément. Et c'est ce que vous avez illustré, parce qu'il n'y a pas eu d'intervention au sol, sauf quelques équipes, avec la Libye, on voulait faire tomber Kadhafi, et avec la Yougoslavie. Vous voulez faire tomber le chef. Donc, pas d'intervention au sol. Et là, on peut se limiter à des opérations qui sont des opérations de bombardement. C'est de l'artillerie pure. En revanche, quand le pouvoir s'installe sur un territoire que l'on doit conquérir, alors, l'arme aérienne n'est pas suffisante. Et vous l'avez bien montré avec l'intervention en Irak en 1991. Vous avez commencé, vous l'avez dit, par bombarder pendant 100 jours, avant que les Américains et les Français avancent. Et c'est tout le problème actuel, et je reviens à Daesh, parce qu'on ne veut pas envoyer de troupes au sol, sinon quelques troupes spéciales. Or, Daesh conquiert un territoire, et ce n'est pas simplement un pouvoir qu'on veut détruire. C'est un pouvoir qui est installé sur une certaine partie de la Syrie et de l'Irak, et c'est précisément parce que ce pouvoir est installé sur un territoire de plus en plus étendu qu'on est dans une situation qui devient catastrophique. Et question, alors, pardon pour les aviateurs, mais l'arme aérienne, quelle que soit son importance, est une arme insuffisante, et elle ne peut pas obtenir la victoire si elle n'est pas accompagnée d'un mouvement au sol. C'est un problème qui est un problème politique, alors je suis d'accord avec vous. C'est fondamentalement un choix politique qui est à la base de l'utilisation de ces instruments. J'ai parlé non pas 15 minutes, mais un peu plus de 15 secondes. Pardon, Monsieur le Président.
Non, mais vous avez suscité une réponse de la part... Je ne sais pas si c'est une réponse ou une réplique de la part de M. Lespinois.
J'ai demandé une faveur au Président parce que je ne pouvais pas laisser dire que l'arme aérienne était inutile et insuffisante, mon général. Non, et clore cet atelier là-dessus. Donc... Alors oui, elle est. D'abord, il y a Colin Gray, je pense, qui a fait une réponse définitive à cet argument. Il faut d'abord dire que plus personne est doué sien, je veux dire, plus personne n'espère obtenir la décision uniquement par l'emploi de l'arme aérienne. Et doué, mais Colin Gray a dit que l'arme aérienne à elle seule ne suffisait pas à donner la victoire, mais qu'il choisissait au sol à qui il fallait donner la victoire. Et c'est ce qui s'est passé en Libye. D'ailleurs, en Libye, on n'a pas déployé de force au sol, ou pas de manière significative, tout au moins. Mais par contre, on a choisi de soutenir le camp rebelle, et c'est le camp rebelle qui a gagné. Et voilà. Et maintenant, alors est-ce qu'il fallait s'engager au Libye, etc. C'est un autre problème. Mais il y avait une mission remplie, et les militaires l'ont remplie. Et de l'autre, c'est... Il faut bien voir que l'arme aérienne en Afghanistan, comme en Libye, comme en Daesh aujourd'hui, elle permet de limiter le niveau de violence. En Libye, et c'était exactement, vous disiez, ça ressemble à l'artillerie d'autrefois, et c'est exactement ce que disait Olivier Chaline hier lorsqu'il parlait des campagnes de Frédéric II ou de Napoléon, où l'artillerie a peu à peu remplacé des effectifs que ni l'empereur ni le roi de Prusse n'avaient. Et ici, on ne veut pas envoyer des effectifs, parce que les gens ont d'autres choses à faire qu'à se battre en Libye ou en Syrie. Par contre, on envoie des aviateurs et des avions pour limiter le niveau de violence et pour circonscrire le problème, et pour éviter d'envoyer des effectifs. L'emploi il y a un ancien commandant de l'ISAF en Afghanistan qui disait que les avions lui permettaient d'économiser 200 000 hommes sur le terrain, que l'emploi de la puissance aérienne, la reconnaissance, l'appui-feu, etc., ça permettait d'économiser 200 000 hommes. Et aujourd'hui, en Syrie, ça permet d'éviter que Daesh soit emparé de Bagdad, ça permet que s'étende trop et fasse tomber d'autres régimes à côté. Ça apporte pas une solution politique, c'est certain, mais ça permet de maintenir le niveau de violence au plus bas possible.
les conversations privées sont autorisées, mais après. Non, je crois qu'il faut mettre fin parce que c'est un sujet sans fin et qui est passionnant. On n'a pas besoin d'être ni militaire et encore moins militariste pour se passionner pour cette question. Il me reste à vous remercier tous pour votre participation active. Je redis ce que j'ai dit tout au début. Cela doit aboutir et aboutira à une publication. Et par conséquent, je compte sur des textes dans un avenir le plus proche possible, mais essayer de ne pas dépasser la fin de l'année. Voilà. Donc ceux qui ont leur texte prêt ou à peu près bon, se reliront et peuvent l'envoyer tout de suite. Et voilà, donc merci, thank you very much.
Excusez-moi.
Oui.
Est-ce qu'il y a une limitation du nombre de cibles?
Alors, j'ai une norme, mais une norme élastique qui est de l'ordre de 40 000 signes, c'est-à-dire pour vous 7 000 mots, 6-7 000 mots, c'est ça? Alors, moins ou plus, ce n'est pas rigoureux, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin pour dire ce que vous voulez dire. Donc évitez évidemment la prolixité, les excursus, aller à l'essentiel. Et c'est pourquoi j'ai choisi 40 000 signes. D'après mon expérience, c'est la bonne distance en général. Mais enfin, faites comme vous voulez. Alors j'ai posé la question à M. Attendorf, qui préfère être traduit. Donc vous votre français est parfait. Donc,
à corriger quand même.
Oui, bah, quelqu'un reliera. Oui, on donnera ça à quelqu'un. Ou je le ferai moi-même, d'ailleurs. Merci à tous. Et puis, bon retour dans vos foyers.
Merci. Ouais.